Verrois Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 14 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Nigeria, nouvelle manifestation à Lagos ce mercredi malgré les annonces de réforme de la police. En RDC, une manifestation pour l'intégrité territoriale organisée par l'opposant Martin Fayulu a été dispersée par la police à Kinshasa. Un Congolais condamné à 1000 euros d'amende en France pour avoir arraché un poteau funéraire d'origine tchadienne dans un musée. Israël et le Liban ont engagé des pourparlers sous l'égide des États-Unis pour délimiter leurs frontières maritimes. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Nouvelle manifestation contre les violences policières au Nigeria ce mercredi avec des barrages sur deux grands axes de Lagos malgré les annonces du gouvernement pour réformer la police. Le point avec Jacques Aristide.
Le cœur financier de la capitale économique du Nigeria était quasiment vide ce matin. La majorité des Lagosiens ne s'étant pas rendus au travail après avoir été bloqués des heures durant dans les embouteillages depuis le début de la semaine à cause des manifestations. Dans un premier temps, celle-ci réclamait la suppression de la SARS, une unité de police accusée d'extorquer la population d'arrestations illégales, de tortures et même de meurtres, unité démantelée dès dimanche dernier par le gouvernement qui continue de répéter son engagement pour réformer la police. Hier soir, des mesures pour plus de transparence au sein de la police ont été annoncées, alors que des tests psychologiques seront offerts aux officiers de la SARS avant leur redéploiement dans d'autres organes. Une nouvelle unité, la Special Weapons and Tactics SWAT, va être créée, ce qui a provoqué une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Quelques heures à peine après l'annonce, le hashtag NSWAT avait remplacé End SARS. Des manifestations sont également attendues dans plusieurs villes du sud du pays et dans la capitale fédérale Abuja, où l'armée a délogé les manifestants hier. L'ONU a appelé les jeunes à rester pacifiques, rappelant que le processus de réforme peut prendre du temps.
L'opposition ivoirienne laisse planer le doute sur sa participation à la présidentielle du 31 octobre en ne retirant pas auprès de la commission électorale ses spécimens d'affiches et de bulletins de vote alors que la campagne électorale s'ouvre jeudi. La commission a précisé que ces documents étaient toujours disponibles. L'aile du FPI dirigée par le candidat Pascal Affine-Guessant a appelé ses militants à ne pas retirer les cartes d'électeurs. En République démocratique du Congo, la police a dispersé ce mercredi à Kinshasa une manifestation à l'appel de l'opposant Martin Fayulu qui entendait mobiliser pour l'intégrité territoriale du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Sur Twitter, Martin Fayulu avait appelé les Congolais à une marche pour, je cite, « dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la RDC ». Mais selon Serge Wello, secrétaire national à la jeunesse de l'SID, le parti de M. Fayulu, les manifestants ont été dispersés par la police, les pneus du véhicule du président Fayulu crevés. Après l'incident, M. Fayulu s'est rendu au commissariat de Limété pour exiger la réparation des pneus de son véhicule selon des témoins et les médias congolais. En fin d'après-midi, quelques dizaines de manifestants rassemblés aux abords de ce commissariat qui scandait non à la balkanisation du Congo ont été dispersés par la police. M. Fayulu et des acteurs de la société civile dénoncent le risque de balkanisation de la RDC en visant notamment le Rwanda voisin. Une décision prise la semaine dernière d'accorder à une entité rurale, Minembwe, le statut et les pouvoirs d'une commune à part entière, a attisé la polémique dans le pays. Minembwe, dans le sud Kivu, a un maire et une grande partie de ses habitants issus de la communauté des Banyamulenge, de Congolais Tutsi, aux lointaines origines rwandaises.
En Centrafrique, l'inscription sur les listes électorales pour la présidentielle et les législatives est achevée, a annoncé ce mercredi l'autorité électorale, alors que l'opposition conteste le maintien des scrutins à la date du 27 décembre. La coalition Code 2020, emmenée par l'ancien président François Bozizé, réclame un report, invoquant le caractère incomplet de l'enrôlement des électeurs dans un pays encore sous la coupe de groupes rebelles. La directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a inauguré ce mercredi la première chaîne web éducative à Brazzaville. Cette visite organisée au lendemain de la rentrée des classes de 1,3 million d'élèves en République du Congo vise à soutenir le système éducatif face à la pandémie. EdTV, consacrée à l'enseignement à domicile, a été inaugurée au lycée de la Révolution. Le chanteur et député de l'OPA a été arrêté ce mercredi avec des responsables de son parti lors d'une opération des forces de sécurité contre ses bureaux à Kampala, a annoncé son avocat Anthony Wameli, affirmant qu'ils ont été retenus à l'intérieur des locaux. Le porte-parole de la police, Patrick Onyango, a confirmé une opération de police au bureau du NUP, le parti de Bobi Wine. Le gouvernement sud-soudanais et les rebelles du Front national du salut ont annoncé à Rome la signature d'un accord prévoyant un cessez-le-feu. Les combats continuent dans le sud du pays entre l'armée et les troupes du NAS de l'ancien général Thomas Cirilio Swakadou, non signataire de l'accord de paix de septembre 2018. Le Congolais Mwazulu Diabanza a été condamné à 1000 euros d'amende à Paris pour avoir arraché de son socle un poteau funéraire d'origine tchadienne au musée du Quai Branly. L'activiste entendait dénoncer le pillage culturel de l'Afrique. Le point avec John Lyndon.
Initialement poursuivi pour tentative de vol, il a finalement été condamné par le tribunal correctionnel pour vol aggravé. Les autres militants jugés avec lui ont été condamnés à des peines d'amende avec sursis de 250, 750 et 1000 euros. L'activiste congolais a annoncé qu'il allait faire appel. Membre de l'association panafricaine Unité, Dignité, Courage, Emery Mwazulu Diwambaza et d'autres militants s'étaient emparés le 12 juin de Sara, un poteau funéraire du 19e siècle d'origine tchadienne, en l'arrachant de son socle. Emery Mwazulu Diwambaza avait pris l'objet dans ses bras en criant « On le ramène à la maison ». Reconnaissant le caractère militant de cette action, le président du tribunal a expliqué mercredi en rendant son jugement que ce mode opératoire devait être découragé. Le militant congolais n'en a pas fini avec la justice. Quelques semaines après le coup d'éclat du musée du Quai Branly, il s'était emparé d'un objet en ivoire au musée des arts africains de Marseille, dans le sud-est de la France, puis avait tenté d'emporter une sculpture du Congo à Africa Museum de Berck, en Dal, aux Pays-Bas. Il doit être jugé à Marseille le 17 novembre et en janvier aux Pays-Bas pour ses actions. De plus en plus de voix s'élèvent toutefois pour demander la restitution des objets pris en Afrique et envoyés en France pendant l'époque coloniale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump participera jeudi soir à un échange avec les électeurs sur la chaîne NBC, tandis que Joe Biden en fera de même sur ABC. Les deux adversaires de la présidentielle du 3 novembre devaient initialement se retrouver pour un deuxième débat, mais le président a refusé de participer au débat virtuel proposé par les organisateurs. Donald Trump s'exprimera depuis Miami et Joe Biden sera à Philadelphie. Premier round de pourparlers entre Israël et le Liban sous l'égide de Washington pour délimiter leurs frontières maritimes et lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Les discussions ont été productives lors de cette session inaugurale d'une heure, ont affirmé la diplomatie américaine et les Nations Unies dans un communiqué commun. Pour cette première rencontre, le secrétaire d'État adjoint américain pour le Moyen-Orient, David Schenker, a endossé le rôle du médiateur. La deuxième session aura lieu le 28 octobre, selon une source militaire libanaise, et le diplomate américain John Desrochers prendra la relève de M. Schenker. Après plusieurs années de médiation américaine, le Liban et Israël avaient annoncé début octobre ces pourparlers qualifiés d'historiques par Washington. Au-delà du contentieux bilatéral, ces pourparlers interviennent dans un contexte de fortes tensions en Méditerranée orientale, autour des hydrocarbures et de la délimitation des frontières maritimes, impliquant aussi, entre autres, la Turquie, la Grèce et Chypre. Ces pourparlers sont cruciaux pour le Liban, qui s'est lancé dans dans la prospection d'hydrocarbures offshore alors que le pays traverse une profonde crise économique.
L'Azerbaïdjan a bombardé des systèmes de lancement de missiles déployés la nuit dernière sur le territoire arménien et qui, selon Bakou, servaient à viser le pays. Les combats au Nagorno-Karabakh continuent malgré les appels de la communauté internationale. Un cessez-le-feu négocié par Moscou, censé entrer en vigueur samedi, n'a pas été respecté.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Burkina Faso, la production d'or, premier produit d'exportation, a baissé en 2019 à cause des attaques djihadistes. Le pays a produit 50,3 tonnes d'or contre 52,6 tonnes en 2018, soit une baisse de 4%. C'est la première baisse de la production en 5 ans. Le ministre burkinabé des Mines et des Carrières, Oumarou Idani, dit espérer une hausse de la production cette année, car au 30 juin, le pays a déjà enregistré 26,5 tonnes d'or de production. Au Soudan, l'inflation a atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix, selon l'Institut des statistiques. Ce sont la nourriture et la hausse des loyers qui ont pesé le plus lourd dans cette augmentation. En août, l'inflation avait déjà atteint 166,83%. Pour terminer, Bruxelles appelle à un accord négocié avec Washington dans la dispute qui les oppose depuis 15 ans sur les aides publiques américaines accordées à Boeing, alors que l'OMC a autorisé des sanctions européennes contre les États-Unis. L'Union européenne propose que Washington retire les droits de douane qu'il a imposés sur le cas Airbus. En retour, elle s'abstiendrait de mettre en œuvre ses droits de représailles et les deux camps remettraient alors les compteurs à zéro. Dans un différent parallèle concernant les aides à Airbus, l'OMC avait déjà autorisé les États-Unis à taxer les produits européens.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Fin hier, des rencontres amicales de la plupart des sélections africaines qui ont profité des journées FIFA pour préparer les prochaines journées d'éliminatoire de la CAN 2021 prévues en novembre. La Côte d'Ivoire s'est inclinée dans les toutes dernières minutes de sa rencontre face au Japon 0-1 sur un but de Naomichi Ueda à la 92e, 1-1 entre le Maroc et la République démocratique du Congo, 1-1 également entre la Tunisie et le Nigeria, 2-2 dans le choc entre le Mexique et l'Algérie. Certains matchs ont été annulés pour cause de Covid-19. C'est le cas de la rencontre Sénégal-Mauritanie annulée à quelques heures du coup d'envoi à cause de 8 cas positifs au Covid-19 au sein de la délégation mauritanienne. Idem pour le match Mali-Iran annulé après 2 cas positifs chez les Maliens qui en comptaient déjà 4 la semaine dernière. En Europe, testé positif hier au Covid-19, Cristiano Ronaldo a quitté le camp de base de l'équipe du Portugal dans la banlieue de Lisbonne pour retourner à Turin en Italie. Ronaldo est donc forfait pour la rencontre contre la Suède à Lisbonne en Ligue des Champions. La semaine dernière, avant le déplacement en France, 2 autres joueurs portugais ont été testés positifs, le gardien lyonnais Anthony Lopez et le défenseur lillois José Fonte. Toujours en Europe, l'auteur de la Panenka est sorti de l'hôpital. L'ancienne gloire du football tchèque Antonin Panenka était hospitalisé après avoir été contaminé par le Covid-19. « Je suis allé chercher mon père à l'hôpital et je l'ai ramené à la maison », a dit son fils Thomas Panenka sur le site internet des Bohémiens, le club de Prague où le célèbre milieu de terrain a joué. Panenka, 71 ans, s'est rendu célèbre en remportant l'Euro en 1976 avec la Tchécoslovaquie. C'est en finale contre l'Allemagne qu'il a réussi le fameux pénalty décisif d'une balle piquée au centre du but, un geste qui porte depuis son nom. Le Brésil est sorti en tête de la deuxième journée des qualifications sud-américaines pour le Mondial Qatar 2022 en battant le Pérou à Lima 4-2 grâce à un triplé de Neymar qui jouait son 103e match en équipe nationale. Il est devenu le deuxième meilleur buteur du Brésil avec 64 réalisations, soit 2 de plus que Ronaldo. Seul Pelé a fait mieux avec 77 buts en 92 matchs. De son côté, l'Argentine s'est imposée devant la Bolivie 2-1 et signé un deuxième succès dans ses éliminatoires. Dans les autres rencontres, la Colombie a fait match nul 2-2 avec le Chili. L'Équateur a dominé l'Uruguay 4-2 et le Paraguay a battu le Venezuela 1-0.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les candidatures de femmes à une présidentielle en Afrique sont de plus en plus fréquentes, mais restent largement minoritaires. Plusieurs cas dans le monde, y compris aux États-Unis, ont démontré qu'elles sont souvent obligées d'abandonner la course, faute de moyens financiers et de ressources humaines pour la campagne électorale. En Guinée, deux femmes sont parvenues à être inscrites sur la liste définitive pour la présidentielle du 18 octobre. Il s'agit des anciennes ministres Macalé Traoré du Pacte et Macalé Camara du FAN. Un reportage de Zakaria Camara à Conakry.
11 octobre, journée internationale de la jeune fille. L'occasion est opportune pour le club des jeunes filles leaders de Guinée qui dresse un tableau plutôt sombre. Plus de 400 cas de viol depuis janvier 2020. Le cas d'excision et de mariage d'enfants sont inquiétants selon l'ONG. Le 18 octobre, les Guinéens iront voter pour élire le président de la République. La présence de deux femmes parmi les 12 candidats ne laisse pas indifférente Kadiate Konaté, secrétaire générale du club des jeunes filles leaders de Guinée.
Si on a plus de femmes qui pensent à élire d'autres femmes à la tête de notre pays, on ne peut pas dire de manière effective que les femmes peuvent être au pouvoir ou les femmes doivent être au pouvoir. Mais ça dépend de leur stratégie qu'elles vont développer. En tout cas, moi, j'ai une forte confiance aux femmes.
Les femmes guinéennes se battent au quotidien pour le respect de leurs droits. Elles sont peu sollicitées à des postes de responsabilité. Aucune femme chef du gouvernement depuis toujours. Dans la capitale, certaines semblent dessus de la gestion du pays par les hommes. D'autres dénoncent des pesanteurs socioculturelles.
Le pays a toujours été dirigé par des hommes, mais jusque-là, il y a un peu de défaillance. Après 62 ans de gestion de notre pays par les hommes, la Guinée est toujours dans le même problème. Nous n'avons pas de route. Donc, je pense qu'une femme à la tête du pays pourra faire quelque chose.
En Guinée, les femmes sont marginalisées d'une part. Et je crois que ça, c'est un peu dû à la religion. On ne donne pas la liberté totale aux femmes de prouver leur capacité. C'est ce qui fait que la plupart des femmes se sentent complexées ou inférieures aux hommes.
Macalé Camara, ancienne ministre et ancienne diplomate, et Macalé Traoré, directrice de campagne du candidat Alpha Condé en 2010, comptent toutes les deux sur le vote des femmes lors du scrutin présidentiel du 18 octobre. À Conakry, certaines femmes ont accepté de se prononcer sur la présidentielle.
C'est vrai que les femmes sont en majorité, mais le plus souvent, ce sont des illettrés. Alors, ils ne savent pas vraiment pour qui il faut voter. Et le plus souvent, ils sont manipulés aussi par ces hommes.
Je donnerai ma voix à une des deux femmes qui sont candidates. On a eu des femmes présidentes dans d'autres pays et puis ça a marché. C'est des choses qu'il faut toujours essayer parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne pourra pas savoir jusqu'où elles sont capables d'aller. Les femmes aussi peuvent se mettre au devant de la scène, mettre leur expérience au service de toute la nation pour pouvoir avancer le pays.
5 millions de Guinéens doivent choisir parmi 12 candidats, dont le président sortant Alpha Condé. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République démocratique du Congo, la question de la commune de Minembwe, rattachée aux populations rwandophones Banyabulenge, provoque des tumultes dans le pays. Des marches et manifestations ont eu lieu ce mercredi dans divers endroits, y compris à Kinshasa, où les manifestants ont été dispersés par la police. Pour une analyse, Eddy Isango a joint dans la capitale congolaise le professeur de communication Joseph Adolphe Voto.
« le fait que cette manifestation soit empêchée par le gouverneur de la ville et puis réprimée par la police n'étonne pas, parce que depuis 97, depuis que le pouvoir de l'AFDEL est là, avec l'accord de l'EMERA, c'est pratiquement le même système qui continue aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un deal entre Tshisekedi et Kabila, et donc le secteur de la sécurité et tout ça est resté le même, et qui répond à cet accord qui a été effectué depuis l'EMERA et qui est en faveur de Bayamouling, qui pratiquement constitue un tiers du service de sécurité et a des postes stratégiques. La lecture que j'en fais, c'est que les Bayamouling sont toujours en bonne position. Ils maîtrisent l'armée, ils contrôlent une partie du service de sécurité. Ils ont la sympathie du pouvoir actuel, même si le président de la République a dit qu'il a annulé le décret installant le bourgmestre. Mais le gouvernement congolais est en bon rapport avec Kigali, et Kigali qui est le parrain de cette structure de Bayamouling. Donc, pas grand-chose a évolué. Les Congolais devront encore batailler dur pour rentrer dans ce qu'ils pensent être leur droit.
La RDC s'est engagée depuis un temps dans le processus de décentralisation avec la création des nouvelles entités, des provinces et autres. En quoi, fondamentalement, l'élévation des Minembwe en commune rurale pose problème?
Deux titres. Premièrement, la procédure n'a pas été respectée. La loi dit que c'est au niveau de la province, de l'Assemblée provinciale qui fait la recommandation au niveau national après avoir consulté la population sur le terrain, ce qui n'a pas été fait. L'Assemblée provinciale du Sud qui vous avait recommandé de villes ou de territoires qui doivent ériger en commune rurale. Et Minembwe n'a pas été répertorié. Donc il y a eu tricherie déjà en amont. Et quand bien même que depuis 2013, le Premier ministre a signé décret, le gouvernement a reculé parce qu'il y avait eu des réactions au niveau de la population locale là-bas. La deuxième des choses, c'est que l'érection de Minembwe en commune rurale va aider à la réalisation d'un projet qui n'est qu'un secret des polichinelles aujourd'hui, parce que ça donne, premièrement, les Bayamouling revendiquent le territoire de Minembwe qui a été créé déjà par la RCD, qui a été annulé finalement. Ils revendiquent le territoire de Minembwe comme leur terre d'origine. Et en mettant un bourgmestre, on a maintenant un pouvoir organisé sur cette population. Donc, en termes de l'autodétermination de peuple, vous savez que pour avoir un État, il faut au moins trois éléments essentiels, c'est-à-dire une population, les Bayamouling sont une population, un territoire, ils veulent avoir un territoire qu'ils peuvent se revendiquer pour eux, un territoire d'origine, et de trois, un pouvoir politique organisé, donc un bourgmestre reconnu par non seulement l'État congolais, mais aussi la communauté internationale.
Joseph Adolphe Voto est professeur de communication à Kinshasa.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le président américain Donald Trump est reparti en campagne cette semaine en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre après avoir été déclaré négatif au coronavirus par son médecin, affirmant qu'il n'est plus contagieux. À trois semaines du scrutin, le président républicain et son adversaire démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden, sillonnent les États clés pour dynamiser leurs partisans. Les détails avec Elisabeth Lee de La Voix de l'Amérique, le récit est de Jacques Aristide.
De la Floride à l'Ohio, les partisans se rassemblent à l'appel de leur candidat alors que le compte à rebours est déjà enclenché à 20 jours de la présidentielle. Dans l'état pivot de la Floride, les supporters ont subi une prise de température corporelle avant d'assister au premier meeting de campagne du président Donald Trump depuis sa sortie de l'hôpital.
C'est formidable d'être de retour dans l'état de mon domicile, la Floride, pour mon comeback officiel en campagne.
Le président Trump en a profité pour parler de sa guérison.
Maintenant, ils disent que je suis immunisé, je le sens. Je me sens si puissant. Je peux marcher dans cette foule et embrasser tout le monde.
Les recherches liées à l'immunité au nouveau coronavirus ne sont pas claires. Lors d'un rassemblement d'un différent type, le candidat démocrate Joe Biden a critiqué la manière dont le président Trump gère sa maladie.
Son comportement personnel est imprudent, depuis son diagnostic est inacceptable. Plus Donald Trump est président, plus il semble imprudent.
Le président Trump voudrait peut-être faire montre de force pour son retour, d'après Bruce Kane, politologue à l'université de Stanford.
Je ne suis pas sûr qu'il y avait une meilleure façon de le montrer. Je veux dire, certainement, s'il avait semblé vulnérable, faible et malade, cela aurait été mauvais pour lui.
Mais son traitement contre la maladie et sa guérison pourraient avoir l'effet contraire, ajoute Bruce Kane via Skype.
Sa réaction au Covid et certaines des déclarations qu'il a faites au sujet du Covid, de son immunité et de sa non-vulnérabilité ne passent pas bien auprès des électeurs plus âgés. Et la Floride est un État où il y a beaucoup de retraités, beaucoup de personnes vulnérables qui peuvent non seulement tomber malades, mais potentiellement mourir du Covid.
Alors que M. Trump a remporté la Floride en 2016, l'État est très disputé en 2020. Un dernier sondage montre que M. Biden a une mince avance sur M. Trump en Floride.
M. Trump essaye de faire sortir des supporters, de les dynamiser, de les faire voter. Car s'il peut amener les hommes blancs, en particulier à voter en grand nombre, il pourra compenser certaines pertes qu'il a eues parmi les femmes et les électeurs plus âgés. L'accent du côté de M. Biden est essentiellement de s'assurer que sa campagne ne semble pas commettre les mêmes erreurs commises par Hillary Clinton.
Je veux remercier les Américains d'origine hispanique.
Les Hispaniques, qui devraient être le plus grand groupe d'électeurs parmi les minorités du pays, joueront un rôle dans le scrutin. Les sondages nationaux montrent qu'ils soutiennent M. Biden dans une proportion de 2-1, bien que M. Trump soit mieux coté au sein de la communauté cubano-américaine, un groupe majeur en Floride.
L'audience de confirmation de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis se poursuit devant la commission judiciaire du Sénat. Mardi, la candidate a assuré qu'elle exercera en toute indépendance son mandat si elle accède à la plus haute cour du pays. Madame Barrett a évité de se prononcer directement sur les questions de l'avortement, des soins de santé et des armes à feu. La correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès, Catherine Gibson, fait le point. Le récit est de Saloua Jafari.
Au premier jour de son passage devant les sénateurs, la juge Amy Coney Barrett a souligné qu'elle n'imposera pas son agenda sur les dossiers qu'elle examinera en tant que juge de la Cour suprême.
Je ne peux pas exprimer des points de vue ou m'engager d'avance ou dire quelque approche particulière j'adopterai concernant un cas.
Chaque sénateur a droit à 2 séries de questions cette semaine. Les Républicains ont célébré en Barrett une juge hautement qualifiée, dont l'expérience en tant que mère de 7 enfants et fervente catholique apportera à la Cour une nouvelle perspective. Le sénateur républicain Lindsey Graham.
Je veux que le peuple américain sache qu'il est normal d'être religieusement conservateur. Je pense qu'il est normal d'être personnellement pro-choix. Je pense qu'il est normal de vivre sa vie d'une manière catholique traditionnelle. Et vous seriez toujours qualifié pour la Cour suprême.
Mais les démocrates ont grillé Barrett sur une affaire à laquelle elle pourrait faire face immédiatement si elle était confirmée. Il s'agit des différends liés à l'élection présidentielle. Le sénateur démocrate Patrick Leahy.
Lorsque le président déclare qu'il a besoin de son candidat pour assurer sa réélection, puis le candidat est passé au Sénat en un temps record, au milieu d'une élection, certains vont remettre en question l'impartialité de ce candidat.
De nouveau, la juge Amy Barrett.
Je n'ai pas eu de conversation avec le président ou un membre de son cabinet sur la manière dont je trancherai cette affaire. Ce serait une grave violation de l'indépendance judiciaire de ma part et faire un tel commentaire ou répondre à la question de savoir comment je trancherai ce cas.
Les démocrates ont tenté en vain de savoir comment la juge Barrett se prononcerait sur une affaire à venir qui pourrait aboutir à l'annulation d'une disposition clé de la loi sur l'assurance maladie promulguée par le président Obama. De nouveau, la juge Amy Barrett.
Je ne peux pas exprimer des points de vue ou m'engager d'avance ou dire quelque approche particulière j'adopterai concernant un cas.
Écoutez la sénatrice démocrate Dianne Feinstein.
Sur quelque chose qui est une cause majeure, ayant un impact majeur sur plus de la moitié de la population de ce pays, qui sont les femmes après tout, il est pénible de ne pas obtenir une réponse directe.
L'approche judiciaire de Barrett, uniquement sur la loi, a été applaudie par les républicains qui redoutent les excès de la part des juges. Qu'à cela ne tienne, on s'attend à ce que la confirmation de la juge Barrett avance rapidement et soit soumise au vote de l'Assemblée du Sénat dans la semaine du 26 octobre.
c'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.